approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans.
Les émissions du Lot en Action, ce sont d'abord deux mensuelles de 2 heures chacune, en direct sur les radios libres Antenne Doc et Décibel FM, mais ce sont également des reportages, des interviews, des rencontres radiophoniques que nous publions sur notre site lelotenaction.org.
Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Des mots rues.
Ce mercredi 24 mai, nous nous sommes rendus à Livernon pour couvrir la mobilisation des faucheurs volontaires venus soutenir l'un des leurs, Jérôme, qui était entendu par la gendarmerie. Lors du pique-nique, nous avons rencontré Pierre Rouillon, l'un des membres du collectif citoyen lotois qui s'est créé pour lutter contre le projet de méthanisation industrielle à Gramin. Nous avons déjà écrit plusieurs articles sur ce sujet et vous invitons à vous y reporter pour plus d'informations. Ces articles sont tous disponibles sur le site du Lot en Action. En deux mots, pour situer le cadre de cette interview, rappelons qu'à Gramin, en plein parc naturel régional des Causses du Quercy, la tentaculaire coopérative agricole Capel, par l'intermédiaire de sa filiale La Quercinoise, traite et transforme près d'1 500 000 canards par an. Une telle installation agro-industrielle génère bien évidemment de nombreux déchets polluants qu'il faut traiter. L'idée de créer un méthaniseur pour ce faire semble plutôt une perspective intéressante, puisqu'un méthaniseur permet de retraiter ces déchets organiques et d'en tirer de l'énergie qui sera consommée sur place. Mais pour que l'idée reste intéressante et pertinente, il eût fallu que le dimensionnement de ce méthaniseur corresponde aux besoins de l'usine. Et c'est là que les choses se compliquent, puisque la Capel a œuvré en coulisses pour capter des fonds publics et raisonner en termes d'économie d'échelle en présentant un projet surdimensionné. Le méthaniseur géant devra, pour être alimenté, recevoir des déchets organiques de tous les départements limitrophes et même au-delà. Écoutons Pierre sur la genèse de cette affaire.
Pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe.
On entend les oiseaux, hein.
On entend les oiseaux, c'est sympathique.
Pierre, bonjour. On est juste devant la gendarmerie de Livernon, en soutien aux faucheurs volontaires. Et alors, je profite du fait de te croiser et de mettre... je remets ta casquette du collectif citoyen de toi. Est-ce que tu peux nous parler du projet de méthanisation à Gramin? Refaire un petit historique de ce qui s'est passé et un point sur la situation.
Bonjour. Effectivement, la méthanisation sur Gramin, ça fait à peu près 6 mois que nous sommes sur le dossier. D'autres avaient déjà, s'étaient déjà intéressés à la procédure en analysant justement les documents qui étaient fournis par la société qui veut exploiter le centre de méthanisation de Gramin. Donc ce qui nous a déclenché, nous, c'est lorsque l'on a appris ce projet, puisque peu de personnes semblaient avoir été informées malgré une enquête publique qui n'a pas fonctionné, semble-t-il. Il nous apparaît sur ce dossier que, effectivement, le projet dans son ensemble est surdimensionné. La nécessité de Gramin de se lancer la méthanisation à la base, bien sûr, était motivée par des problèmes de déchets d'abattoir. Effectivement, quand les industriels ont des coûts, parce que ce que l'on fait actuellement de ces déchets, c'est qu'on va les incinérer et bien sûr, ça a un coût pour l'exploitant, mais bien sûr pour le particulier lorsqu'il achète son steak. Donc ils ont essayé de trouver une solution pour utiliser ces déchets. Effectivement, la méthanisation semblait être un procédé intéressant, d'autant qu'il y avait ces déchets en place. Capel dit qu'il vont apporter environ 20 000 tonnes de déchets sur ce projet-là. Mais ce n'est qu'une partie du dossier, dans le sens où effectivement la situation de Capel a initié la démarche, ce qui nous semblait pas idiot à la base et assez cohérent de la part d'un industriel. Néanmoins, ils ont poussé peut-être le bouchon un petit peu loin en essayant de développer au maximum le projet de façon à le créer le plus rentable possible et devenir maintenant des marchands d'énergie. Alors ce qui nous pose problème, bien sûr, j'ai parlé du dimensionnement, mais bien sûr, il y a eu un manque de consultation, un manque de clarté sur le dossier, mais surtout, ça va un petit peu déséquilibrer le secteur. Bien sûr, il y aura des trafics qui vont évoluer, il y aura un coût pour la collectivité à entretenir et à aménager tous les réseaux routiers pour que ce soit adapté à ce nouveau trafic. Bon, pour information, ça représente à peu près maximum 15 camions par jour sur nos routes, mais ces camions, on le sait, 100% sentiront mauvais. Bon, outre le problème d'odeur, ce que l'on voit sur ce dossier, c'est qu'il est projeté, bien sûr, de méthaniser, mais ce qui nous a vraiment posé problème, c'est quand on sait que normalement il faut incinérer ces déchets, là dans la situation de Gramma, ils ont demandé une dérogation et c'est vraiment ça ce qui nous a choqué, parce que il faudrait normalement stériliser ces déchets. Une fois qu'ils sont mélangés à d'autres matières, tous les déchets doivent être stérilisés et leur demande est simple: compte tenu de la quantité, ils essaient de trouver une solution meilleur marché en hygiénisant simplement les déchets, donc c'est-à-dire monter à 70 degrés pendant une heure. Ça ne semble pas être suffisant, en tout cas de l'avis des experts que nous avons consultés. Il semblerait que beaucoup de bactéries puissent encore être actives après la méthanisation, et même, ils poussent plus loin en parlant plutôt d'un bouillon de culture, puisque essayez de faire une soupe vous-même, vous avez tous du bon sens, vous mettez un petit peu de tripe, vous mettez un petit peu de lisier, vous mettez un petit peu de fumier, vous mettez quelques carottes pourries, et puis vous montez ça à 70 degrés, bien sûr, vous allez récupérer un gaz, c'est clair, même avant 70 degrés, mais une fois que vous allez laisser refroidir ça, tout le monde connaît l'expérience malheureuse, c'est que lorsque vous revenez quelques jours après, bien sûr, vous avez des champignons dans la marmite. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un bouillon de culture, ça n'est pas suffisant, en fait. Voilà pour ce point-là. Et l'autre point qui pose vraiment un gros problème, compte tenu de cette information, c'est qu'ils projettent d'épandre les déchets. Alors, bien sûr, ce sont des déchets qui ont des qualités azotées. Et donc, c'est pour cela que ça peut intéresser des agriculteurs en se disant on va trouver un équivalent engrais et on va faire de grosses économies. Donc tout ça, c'est pour économiser de l'argent, gagner de l'argent, tout est motivé par l'argent. Le problème qu'il y aura, c'est que il y aura une société qui sera sous-traitante pour l'épandage des déchets. Cette société, puisqu'il faut se prémunir de précautions au moment de l'épandage, cette société aura beaucoup de mal à répondre aux demandes de tous les agriculteurs qui voudront certainement quasiment épandre le même jour, puisqu'ils ont à respecter des contraintes qui sont importantes concernant la présence de pluie, la présence de soleil, en tout cas toutes les conditions climatiques qui sont liées aux bonnes pratiques agricoles. Donc, bien sûr, on va se retrouver dans ce problème. L'engrais lui-même n'est pas, ou le déchet, parce qu'on ne peut pas parler d'engrais, n'est pas vendu. C'est juste qu'ils auront à payer 4 euros pour la tonne pour l'épandage. Donc c'est un épandage, c'est un déchet que l'on épand. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Et donc ça pourrait être admissible sur des secteurs où on a des sols de bonne qualité, ou en tout cas qui ont des qualités qui correspondent à ce type d'épandage. Malheureusement, le Lot a un très mauvais sol pour ce type de pratique, puisqu'on le connaît. Le sol est karstique, fissuré, on sait que tout ce qui tombe en haut finit en bas, et bien sûr finit au robinet derrière. Et comme on a une interconnexion de toutes les stations de pompage, on craint que avant que l'on découvre un problème éventuel, le problème se soit répandu. Malheureusement, par définition, on ne s'apercevra du problème qu'après coup. Alors effectivement, ils ont prévu des analyses, mais qui ne nous ont pas paru suffisantes, et c'est pour cela que nous sommes des analyses pour éviter des propagations. Et c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans le dossier. La préfecture a été sensible à nos remarques et ont demandé, en fait, par un arrêté complémentaire à ce qu'il y ait plus d'analyse. Mais ça n'est toujours pas suffisant pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous rassure réellement, dans le sens où lorsque vous êtes exploitant et que vous faites vos propres analyses, même si vous traitez avec un laboratoire dit indépendant, c'est vous qui le payez. Donc que va-t-il se passer si vraiment on découvre qu'il y a un problème? Et puis il y a des histoires de stockage qui sont assez importantes, qui sont excentrées, c'est-à-dire sur plusieurs villages du secteur. Tout ne semble pas avoir été respecté pour qu'on soit dans une solution sécuritaire à 100%. Et donc c'est pour cela que nous nous engageons cette démarche. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque effectivement Gramma connaît ce dossier, mais Mérac connaît un autre dossier ou un autre agriculteur qui est déjà en place et qui exploite de la méthanisation, et c'est tout à son honneur, souhaite lui maintenant se développer. Et dans son cas, on parle aussi de méthanisation industrielle, parce que les volumes évoluent, et c'est surtout tous les périmètres de collecte qui évoluent, et ils vont aller de plus en plus loin pour rechercher des déchets pour méthaniser. Donc c'est une évolution de l'agriculture à laquelle nous assistons. Ce sont des agriculteurs qui sont maintenant producteurs d'énergie. Et comme nous l'a fait remarquer certains, c'est pas en faisant du cochon qu'on gagne de l'argent, c'est en faisant de l'électricité. Je crois que le rapport est multiplié par 4 ou 12, enfin en tout cas des proportions qui sont extraordinaires, et effectivement ils ne sont plus beaucoup intéressés pour faire une agriculture dite classique. C'est aussi compréhensible dans le sens où l'agriculteur doit évoluer et doit s'adapter. On a aussi des problèmes de déchets, donc tout ça est assez compliqué. On doit trouver des solutions, il faut être responsable, mais on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte de trouver des solutions. Ce qui nous a dérangé aussi, c'est qu'il y a une subvention qui a été allouée de 2,5 millions d'euros. Ce projet va développer à peu près 3 emplois, d'après ce que l'on nous a dit, des personnes qui vont surveiller le site. 2,5 millions pour 3 emplois, ça nous semble un petit peu lourd en retour sur investissement, surtout quand on sait que la bio n'est plus subventionnée maintenant et que, bien sûr, c'est un projet privé. Je pense qu'il va falloir que l'on évolue dans notre façon de concevoir les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter que des intérêts privés priment sur l'intérêt collectif. C'est-à-dire que les personnes fassent de l'argent, on sait dans quel pays nous sommes, la puissance de l'économie, c'est une chose. Néanmoins, l'argent ne peut pas justifier toutes les démarches.
Alors, ça a été fleuve, hein, mais les informations que tu donnes sont très importantes. Je voudrais revenir sur une chose, parce qu'il y a vraiment 3 problèmes manifestes qui ressortent dans ce dossier. Le premier, c'est le dimensionnement. Le deuxième concerne l'épandage. Et le troisième, la concertation avec les populations. Et très étonnamment, on a eu Le Foll qui est venu annoncer le plan méthanisation au niveau national très récemment. Et on a eu aussi un rapport de l'ADEME qui a été publié en novembre ou décembre très récemment sur la méthanisation. Rappelons-le, l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, et qui, en ce qui concerne la méthanisation, attire l'attention des pouvoirs publics et des porteurs de projets, justement et très précisément sur les 3 points que tu viens de citer. Alors, rapidement, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, le côté dimensionnement, le surdimensionnement du projet, dans la communication qui est faite par Capel aujourd'hui, évidemment, ils mettent en avant le fait que ça reste local, c'est-à-dire on traite notre problème de déchets, la quercinoise, c'est 1,5 million canards qui sont traités chaque année, etc. Et donc finalement, l'argument qu'ils amènent, mais qui est pas tout à fait juste, et j'aimerais que tu dises un mot là-dessus, c'est on traite tout en local.
Non, on ne peut pas dire qu'on traite vraiment tout en local, puisque je voudrais resituer quelque chose. Lorsqu'il y a eu concertation, notamment du parc et notamment des mairies, on a parlé de collecte de déchets sur 2 départements. Après consultation de l'arrêté, non, on ne parle plus de 2 départements. On a vu une carte qui répertoriait un petit peu la surface de collecte, et on va assez loin, c'est-à-dire on va à 2 Cazeville, côté Aveyron, on va aller jusqu'à Brive et jusqu'à Montauban dans l'autre sens. Là, on va couvrir 4, 5, peut-être 6 départements. Donc on ne peut plus parler de projet local. Alors, que Capel ait des antennes à droite à gauche, que Capel ait des amis avec qui ils ont des ententes et avec qui ils souhaitent faire des partenariats, mais on le comprend. Mais est-ce que c'est à nous à subir la volonté de Capel ?
Alors, l'autre question concerne l'épandage. Donc, est-ce qu'y a-t-il, parce que vous avez discuté avec la préfecture, vous avez discuté avec les porteurs de projets, je parle du collectif citoyen Lotois, y a-t-il d'autres solutions que d'épandre directement sur un sol karstique ?
Alors, bon, déjà, cette solution ne serait pas envisageable normalement. C'est-à-dire que c'est incohérent. On ne peut pas se dire qu'on va se décharger de tout ça. Et puis, puisqu'on ne le voit pas, comme l'a dit M. Delrieux, c'est bien, on est sur un COS, donc la pollution va vite partir de chez nous. Je ne crois pas que ça puisse être un argument recevable. L'épandage actuellement, le problème c'est que les agriculteurs ne savent pas vraiment ce dans quoi ils se sont lancés. Bien sûr qu'Appel a un pouvoir de persuasion, il a beaucoup de partenaires et il devait trouver des partenaires. Concernant le plan d'épandage, les choses sont encore assez floues, dans le sens où certaines parcelles ont été retenues, puis enlevées. Le parc a demandé aussi à ce qu'on préserve les parcelles qui les concernaient plus personnellement. Mais les agriculteurs, actuellement, voilà, on parle de moyenne à l'hectare. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui aurait 100 hectares pourrait, en théorie, épandre sur le volume qui correspond à 100 hectares. Mais le problème, c'est qu'on parle de moyenne. C'est-à-dire qu'il pourrait tout mettre sur deux parcelles de 10 hectares. Et il serait toujours dans la moyenne de 100 hectares. Donc on va avoir beaucoup de mal à contrôler tout ça, bien sûr. Et puis, malheureusement, sans vouloir tirer sur qui que ce soit, on connaît la logique agricole. Il faut aller au plus court, il faut aller au plus rapide. Ils sont pressurisés. Ça ne sera pas simple pour eux. Et je crois que ce seront aussi les victimes de la farce. D'ailleurs, certains se plaignent un petit peu des retours négatifs qu'ils reçoivent actuellement. Et certains font déjà marche arrière. Bon, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres projets qui vont être lancés dans le secteur de Figeac. Les personnes qui s'inscrivent dans ces projets se sont déjà inscrites dans le premier plan d'épandage. Donc, il y a une compatibilité. Donc, il semblerait que les chiffres soient faussés. Ça ne semble pas déranger grand monde, en fait. Mais pour mémoire, il faut rappeler que les plans d'épandage n'ont jamais été vraiment respectés. Je discutais avec une personne qui travaille dans une mairie qui, un jour, a voulu s'intéresser au plan d'épandage et s'est aperçu que parfois les terrains étaient déjà vendus, les agriculteurs avaient les fermes avaient changé de main, plus rien ne collait à la réalité. Alors il semblerait qu'on soit face à un système un peu virtuel, mais pas vertueux.
Y a-t-il d'autres solutions que l'épandage ? Il me semble avoir entendu qu'il y avait des endroits où on desséchait le digesteur.
Voilà, donc nous avons fait appel à un spécialiste, M. Kemmerer, qui est ingénieur, chercheur et enseignant, et qui nous a dit que pour lui, ce serait la solution du compostage qui serait la meilleure formule, parce que cela permettrait d'éviter le problème des bactéries, et un coût qui ne serait pas trop important. Mais peut-être que pour l'exploitant, cette solution est plus difficile à maîtriser, parce qu'il faut les stocker, il faut attendre un certain délai, tandis que dans la solution liquide, tout ça va être vite évacué, va être vite envoyé dans le sol, alors que le compostage pourrait s'adresser à plus de monde. Et là, on parlerait d'un engrais véritable.
Alors, troisième volet, c'est celui de la concertation avec les populations locales. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, collectif citoyen lotois, puisque vous avez été, je crois, obligé de saisir la justice ?
Effectivement, nous sommes actuellement dans une démarche de justice aidée par la population, justement, puisque nous avons fait un appel à dons qui nous permet de nous inscrire dans une démarche au tribunal administratif. La démarche a été engagée le 9 de ce mois-ci et par l'intermédiaire de notre avocat, nous avons fait un recours sur le fond. Je pense que le dossier que présente notre avocat est très sérieux et je pense que nous avons des chances d'être entendu. Surtout, je crois que le juge sera sensible au fait que, en même pas un week-end, nous avons réussi à créer un appel de fonds nous permettant de réunir les sommes nécessaires pour payer les premiers frais de l'avocat, ce qui est quand même remarquable.
Un petit mot pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage. Vous avez une page Facebook, un site internet.
Oui, donc bien sûr, on a créé, c'est un blog en fait, je pense que c'est 46@gmail.com. Vous avez, pardon, l'information sur le blog, excusez-moi, c'est meta46.wordpress.com. Je le répète, meta46.wordpress.com. wordpress.com. Si vous voulez nous contacter, par contre, vous aurez l'adresse sur le blog, mais sinon je vous la donne, c'est 46meta@gmail.com. Je le répète parce qu'en général ça va toujours trop vite. 46meta@gmail.com.
Merci Pierre, à très bientôt, on va suivre cette affaire avec diligence.
Merci Laurent, merci à vous.
Des mots tabous,
taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher.
Cette émission touche à sa fin. Je vous précisais au début de cette interview que nous étions à Livernon pour couvrir la mobilisation des faucheurs. Sachez qu'une bonne centaine de personnes étaient présentes et que Matou a réalisé plusieurs interviews que vous trouverez également sur notre web radio du Lot en Action. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.